Bonsoir. On parle beaucoup de permaculture, d'agroécologie, d'agroforesterie, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? On parle de relocaliser la production, de bio et local, pour reprendre la formule d'Agribio 06, mais comment ? On nous dit, mais il faut nourrir de plus en plus d'habitants sur Terre, le bio ne suffira pas. Alors avec mes invités, nous allons décortiquer tout ça, voir ce qui est possible, ce qui relève de l'intox, pour ne pas sortir de l'agriculture industrielle, de l'intox de la FNSEA, on peut les citer quand même, et des politiques qui suivent la FNSEA. Il y a le problème de la politique agricole européenne, la PAC, et de tels d'autres modes de culture. Et on va essayer donc d'aider nos auditeurs à mieux connaître les produits qu'ils consomment, que nous consommons même, et puis pour certains qui font leur potager, à mieux cultiver, à mieux produire leurs propres légumes. Alors mes invités, Marie-Stéphan, merci de vous présenter, merci Marie d'avoir accepté de participer à mon émission.
Alors je suis animatrice en agroécologie, j'ai été formée par Terre et Humanisme, l'association qui a été co-créée par Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle les Ateliers agroécologiques, qui réalise des formations, des plans d'activités autour de l'agroécologie dans les Alpes-Maritimes. Oui. Je suis aussi ingénieure mobilité sur les sujets vélo à l'ADEME, donc, qui est l'Agence nationale pour la transition écologique.
Et de notre côté, mon deuxième invité, Christian Carnavalet. Donc, merci Christian aussi d'avoir accepté participer à cette émission et vous pouvez vous présenter.
Oui, je vais rester succinct. Je suis agriculteur, maraîcher. Agronome aussi de formation. J'écris des livres sur tout ce qui est la vie biologique des sols, l'agriculture biologique en général. Et puis j'écris une école où j'enseigne l'art et la manière de cultiver des légumes sur un petit espace de manière professionnelle. Donc selon ce qu'on appelle la French méthode dans le monde entier depuis un siècle pour former des gens qui se reconvertissent au métier d'agriculteur.
On y reviendra parce que c'est un peu ce qui revient dans tous les débats, c'est ce qu'on appelle l'agriculture familiale fermière. Donc on y reviendra après. Alors je vous propose de prendre un par un les différents modes de culture que j'ai cités dans mon introduction. Si on prend la permaculture, est-ce qu'on peut avoir une définition ?
La permaculture, déjà, je pense qu'il faut recadrer un peu les esprits. C'est une philosophie de vie dans laquelle on intègre la vie courante, l'architecture, l'organisation de son alimentation et une certaine organisation agricole. Donc dans laquelle il y a une part d'autonomie de tous les intrants qu'on peut avoir besoin. Donc il ne faut pas penser que permaculture, c'est forcément agriculture.
Mais ça, c'est important parce qu'effectivement, on parle de permaculture pour l'agriculture. Moi, je fais mon potager, je fais de la permaculture, quoi. Voilà, donc le recadrer, remettre dans un contexte, c'est peut-être très important.
Bien sûr, on dit on fait de la permaculture, c'est plutôt on utilise des pratiques agricoles permacoles. Mais il faut aussi savoir que c'est un mouvement qui est anglo-saxon, qui a été, je le rappelle, créé par des Australiens, Bill Mollison et David Holmgren. Et en fait, c'est un mouvement qui s'est très vite développé partout dans le monde, parce que justement, il englobe toutes les sphères de la vie. C'est une façon d'habiter le monde. Alors que de l'autre côté, l'agroécologie, donc je bascule sur cette définition, c'est vraiment des techniques de culture écologique qui ont pour visée de préserver la vie du sol.
Donc si on prend la permaculture, c'est une façon d'aborder la vie dans son ensemble. On peut le dire comme ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui, oui.
Par contre, l'agroécologie, plus ciblée sur l'agriculture.
Exactement, c'est des techniques agricoles qui visent à favoriser la vie du sol, à préserver la biodiversité. Et on est vraiment sur des techniques scientifiques de culture agricole.
Donc, en tant qu'ingénieur, vous êtes plus sur l'agroécologie, vous êtes le plus pointu.
Oui, l'agroécologie quand même est très étudiée. Enfin, c'est le terme qui regroupe tout un tas de domaines que la science a étudiés. Au niveau de la vie des sols, au niveau des techniques agricoles. Donc, quand on dit vie des sols, c'est comment vivent les bactéries dans le sol, comment vivent les champignons, comment vivent les vers de terre, comment vivent tous les insectes de la microfaune et de la mésofaune, comment tout ça se crée un univers spécifique qu'il y a, dans lequel les plantes vont aller plonger leurs racines pour pouvoir tirer tous les éléments dont elles ont besoin.
Et mieux se développer.
Forcément, et mieux se développer. Donc, il y a une relation extrêmement importante entre les plantes et les micro-organismes du sol. Sans micro-organismes, les plantes ne savent pas vivre. Elles les élèvent, elles font tout un tas de résidus racinaires alimentaires hein, pour élever des bactéries, des champignons. Donc, c'est vraiment ça, l'agroécologie.
Et on parle aussi d'agroforesterie. Donc, si j'ai bien compris, on fait de l'agriculture avec la forêt, enfin, en même temps que la forêt.
Oui, ça, bon, l'agroforesterie, c'est un terme assez récent, peut-être une vingtaine, 30 ans maximum, hein, où on essaye de lutter contre la désertification qu'on a fait des campagnes, où on a arraché absolument toutes les haies, tous les arbres depuis les années 60. On s'est aperçu que ces arbres et ces haies étaient absolument indispensables. Donc, on réintroduit ça avec une notion un peu plus agricole d'exploitation de ces arbres qu'on va replanter, plutôt que de planter des arbres à essence naturelle qui pourraient simplement faire de l'ombrage ou briser les vents.
Et il y a un contact on peut dire, entre ce que l'on plante et l'arbre, donc c'est pas effectivement, on ne plante pas n'importe quoi avec n'importe quel arbre.
Non, les arbres sont indispensables pour beaucoup de raisons. L'arbre est le fossoyeur des pluies, c'est-à-dire que quand il pleut, les arbres, au niveau de leurs racines, font pénétrer les eaux en profondeur. Donc, on a besoin de les replanter puisqu'on les a tous arrachés. Quand on a des centaines de kilomètres carrés d'une seule culture sans aucun arbre, forcément, ça pose problème. Donc, l'agroforesterie est le mouvement moderne de remise en place de ces arbres, des haies, mais enfin surtout des arbres qu'on met fruitiers maintenant pour avoir d'autres revenus complémentaires. Enfin, on plante forcément pour l'avenir, c'est pas tout de suite.
Et si je peux compléter, en fait, c'est comment on insère l'arbre dans des pratiques agricoles. Ça veut dire que ça soit une culture céréalière, que ça soit de l'élevage. Mm. On parle aussi de pâturage dans les bois pour les cochons. Donc, c'est vraiment comment on remet l'arbre dans l'agriculture, les arbres, les haies. Et il faut savoir que les arbres et les haies fournissent quand même de la nourriture pour toute la biodiversité, en particulier les oiseaux. On parle aussi de la disparition des oiseaux et des hérissons. Donc, au niveau biodiversité, c'est indispensable, au-delà de l'érosion et justement des problèmes d'inondation.
Alors, est-ce qu'avec ces systèmes-là, ces principes-là, ces méthodes-là, on peut tout cultiver? Parce qu'on nous dit que sans produits chimiques, par exemple, on ne pourra pas faire des betteraves, on ne peut pas faire... Voilà. Donc, vous prenez ces modes de culture. Est-ce qu'on pourrait tout cultiver avec ce mode de culture?
À partir du moment où, dans l'agroforesterie, dans l'agroécologie, on insère la notion de micro-organisme et qu'un micro-organisme a besoin de manger, qu'on incorpore dans le sol des tonnes, en gros 40 à 50 tonnes de matière organique, donc de carbone à l'hectare chaque année, on va développer une vie microbienne qui va permettre aux plantes de pousser quasiment toutes seules. Cette vie microbienne fait qu'on a des équilibres en toutes les espèces qu'il va y avoir dans le sol, donc on va avoir une absence d'espèces maléfiques, maladives dominantes. Donc toutes les maladies du sol, que ce soit des champignons, des nématodes ou autres, sont absolument rayées de la carte de l'agriculture en agroécologie. Ce qui fait qu'on va semer, on va planter, repiquer, on est certain que déjà... ça va pousser, puisqu'on aura donc des minéraux pour que les plantes puissent manger. On va avoir une quasi-absence de maladies du sol. Donc déjà, on va permettre aux plantes, avec l'arrosage ou les pluies naturelles, de pouvoir pousser.
Et donc, en fait, tout part du sol.
Tout part du sol, exactement. En fait, si le sol, c'est comme on dirait le terrain en médecine. Si le sol est sain, si le sol est bien nourri, si le sol est équilibré, il n'y a pas de raison qu'il y ait des déséquilibres au niveau de la maladie sur les plantes ou sur les arbres. S'il y a aussi une biodiversité qui est respectée. C'est-à-dire, plus un système va avoir une résilience au niveau de la biodiversité, et moins il y aura de maladies. Si on fait des grandes monocultures sans autres végétaux autour, comme des haies, des arbres, et que cette monoculture elle se développe sur des kilomètres, en plus on plante des plants ou on sème des graines qui ont une certaine faiblesse au niveau de la résistance aux maladies, et ben c'est tout le champ qui, s'il y a un ravageur, c'est tout le champ qui va être victime du ravage. Donc la biodiversité et la diversité cultivée est extrêmement importante, en plus, côté sain du sol.
Alors, quand on dit, bon, par exemple, nous, dans la région, c'était beaucoup les fleurs, on dit les fleurs, ça pourrit le sol, parce qu'ils utilisaient, voilà. Donc il faut du temps, mais comment on fait un agriculteur qui veut s'installer Déjà, il faut qu'il remonte sur le sol pour savoir comment il a été exploité, sur combien de temps. Bon, on sait que pour le bio, il faut 5 ans, c'est ça, mais quand même, pour être plus sûr d'avoir un sol sain, déjà.
Pour essayer d'avoir un
pas
sol sain.
Pas pourri par les produits chimiques,
oui.
Voilà.
Moi, c'est ça. On aura toujours des produits chimiques. Donc, mais le fait qu'on réactive la vie microbienne des sols, on s'est aperçu quand même que les champignons avaient cette capacité de bloquer énormément de produits toxiques. On a vu avec Tchernobyl, pareil, tous les produits ont été contaminés, enfin, les champignons ont été contaminés. Donc la plante va, les micro-organismes comme les champignons microscopiques des sols vont déjà bloquer ça. Et après ça, toute l'activité microbienne passe son temps à libérer dans le sol des substances chimiques. Hein. Tout est chimie dans le sol. Hein. Mm. Donc il ne faut pas confondre la chimie industrielle et la chimie naturelle.
Oui, voilà.
Donc comme une bactérie veut manger, elle va donc développer des enzymes. Les champignons vont développer des enzymes extracellulaires qui vont attaquer la matière organique. Donc ces attaques, comme on dit, c'est simplement des brisures, on casse les molécules des végétaux. Donc à partir du moment où on désorganise toutes les molécules, elles vont se réorganiser d'une manière différente avec les minéraux qu'on a apportés, comme le cuivre, le zinc, ou le bore, ou le plomb. Donc tout ça va être bloqué sur différentes molécules et on va diluer la toxicité de tous ces produits-là.
Oui, c'était un peu ma question. Comment, parce qu'on dit qu'il faut enrichir le sol, donc du coup... Comment on l'enrichit ? À partir d'autres plantes ? À partir de...
Alors, juste pour revenir aussi sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a différents niveaux de dégradation du sol. Mm. La dégradation, elle peut être un niveau de toxicité du sol élevé, mais elle peut aller... l'utilisation d'herbicides, de pesticides et d'engrais, pas organiques, mais des engrais minéraux, peuvent aller jusqu'à une dégradation totale du sol, une érosion, et ne plus avoir de sol. Sur des sols comme ça, c'est très, 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 très compliqué de revenir en arrière. Aujourd'hui, on sait que 70% des terres cultivables, arables en Europe, sont abîmées, voire très abîmées, où il y a peu de possibilités de revenir en arrière. Après, sur des sols moyennement abîmés, il y a des possibilités de faire des amendements organiques ou des amendements d'extraits fermentés, où on parlait tout à l'heure de la lifofère que développe en ce moment Terre Humanisme. Il y a... Donc, il y a des moyens de venir développer la vie du sol pour dépolluer les sols. Il y a aussi des plantes qui sont dépuratives et dépolluantes, comme la consoude. Mmh. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'extrait fermenté de consoude pour venir détoxifier les sols. Mais ces techniques prennent énormément de temps. Ça veut dire qu'on ne va pas restaurer un sol en 1 ou 2 ans. Ça prend minimum 10 ans.
Minimum 10 ans. Mais Déméter, il demande 5 ans, non, il me semble.
Ou l'agriculture bio, le label AB, c'est 2 ans.
2 ans seulement, je crois.
Seulement, oui, et c'est la troisième année. En fait, tous les sols ne sont pas dans un état catastrophique. Oui. Et à partir du moment où on remet vraiment des quantités, des tonnes très importantes de matière organique dans le sol, la vie revient quand même assez rapidement. On arrive vraiment à restructurer un sol. Tout se fait avec la matière organique qui est décomposée par les micro-organismes. Et ce sont les micro-organismes qui... Par cette décomposition, on va quand même relâcher dans le sol beaucoup d'acides humiques qui vont se lier, qui vont aux argiles. Donc, on arrive à restructurer un sol quand même plus ou moins rapidement, forcément en fonction de son état de départ. Mais j'ai toujours l'habitude de dire qu'on peut remettre en culture n'importe quel sol, même une route, on enlève le revêtement, on broie les cailloux, on remet de la matière organique et on pourra recultiver dessus. À quelle échéance
C'est
difficile à dire, mais on y arrive quand même.
Ça, c'est valable à toutes les échelles, parce qu'on a, les céréaliers, par exemple, qui ont des immenses industriels, c'est plus des agriculteurs d'ailleurs. On pourrait, à cette échelle-là, utiliser ces méthodes aussi.
On peut les utiliser à toutes les échelles. Il n'y a pas un problème d'échelle pour moi. Il y a un problème plus de matière, en fait, disponible, et de main-d'œuvre, parce que ce travail-là demande quand même beaucoup de main-d'œuvre, et puis du temps, en fait. Donc,
là,
c'est quel temps, quelle échéance, quel temps on a devant nous, en fait, pour restaurer nos sols. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, il y a des sols... On parle des vignobles, par exemple, aux États-Unis, côté Santa Elena. Il y a des vignobles qui sont complètement abandonnés parce que les sols, ce n'est plus du sol, c'est de la roche-mère, en fait. Voilà. Et là, le retour en arrière est impossible.
C'est impossible.
Vraiment, on voit aujourd'hui... C'est pas, on voit des sols qui sont complètement détruits, quoi.
La nature, est-ce que si on ne fait rien, on ne plante rien, on laisse l'état, est-ce que la nature va reprendre ? Donc vous vous disiez, il fait un millimètre par siècle, c'est ça, j'ai bien compris ?
Oui, un millimètre d'humus, oui.
D'humus par siècle.
De sol, oui.
Alors, au 1er janvier, il y a l'obligation pour les collectivités de collecter tout ce qu'on appelle globalement le fermentescible, et donc, en fait, faire du compost. Parce que là, il y a une ressource qui peut être importante quand même et intéressante.
On a une ressource déjà extrêmement importante avec tous les déchets verts que toutes les municipalités collectent. Ce que la loi va nous imposer à partir de janvier va venir compléter ça. Donc on va mettre ces déchets-là avec les déchets verts. Donc les déchets ménagers, quoi, fermentissibles. Donc, mais c'est le problème du transport, c'est le problème de la mise en place. Donc manipuler des tas de terreaux, c'est les mettre dans des camions. Donc il faut des chargeurs, des gros camions et les transporter. Donc actuellement, on peut acheter du déchet vert pour 4 euros la tonne, mais on a peut-être 5 ou 6 euros par tonne de transport. Donc, et puis après ça, une manipulation dans le champ. Une fois que le camion est déposé au bout de la parcelle, il faut encore le reprendre et aller l'épandre. Donc il y a d'autres techniques maintenant pour faire ça.
Mais actuellement, sur la CASA, que je connais, c'est ce que je connais le mieux, les déchets verts, tout ça, ça part à Tarascon. Donc l'intérêt, c'est aussi d'éviter ça.
Oui.
Éviter des camions qui traversent la France.
Au niveau du département... personne ne s'y est intéressé.
Il n'y a pas de site.
Non.
Alors, il y a des petites entreprises qui ont essayé de se lancer pour, j'en connais quelques-unes, pour justement récolter ces déchets verts. Mmh. Et en plus, au-delà de les récolter, il faut les faire composter. Mmh. Donc, c'est des processus qui ont des normes, des règles.
Aussi, oui.
Il faut un espace. Et aujourd'hui, qui gère les déchets, c'est Veolia. Donc, et puis, la compétence, c'est les compétences métropolitaines. Donc, c'est aux métropoles de s'organiser avec... les petites structures qui se créent et Veolia pour dédier un espace. Aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, je pense que c'est plutôt un problème politique et d'encouragement des mairies aussi à passer à l'action parce que là, l'échéance, elle est janvier 2024 et rien n'est fait.
Sur la CASA non plus pour
Non, dans
la
le CASA département, ça n'a pas intéressé
bien,
la Chambre d'agriculture non plus.
Il n'y a rien.
Donc on a un gros problème à ce niveau-là. Oui.
Ouais,
tous nos déchets verts s'en vont et être brûlés.
C'est quand même dommage, parce que
dommage,
il y a une ressource importante. Alors, autre point qui est important dans notre département, mais un peu partout, c'est la problématique de l'eau. Parce qu'on sait que la ressource diminue. De plus, si la ressource diminue, la qualité... est moins bonne, parce que quand il y a moins d'eau dans les nappes, elle est moins bonne qualité. Est-ce qu'on a des modes de culture qui permettent une meilleure protection de la ressource en eau ?
C'est plutôt en grande culture qu'on a beaucoup de ressources. En culture plus restreinte, comme dans notre département, c'est surtout avec des matières organiques, des litières qu'on met sur le sol, toutes les bâches qu'on peut utiliser, le goutte-à-goutte. Enfin, c'est pas vraiment des techniques culturales proprement agroécologiques au niveau du sol. C'est bon, déjà mettre la matière organique, refaire de l'humus qui va retenir. C'est le meilleur rétenteur d'eau, l'humus. Donc déjà, ça, c'est une chose. Mais après ça, c'est empêcher que toute l'eau qu'on met dans le sol ou qui tombe naturellement puisse s'évaporer. Il faut la bloquer. Donc ce sont toutes les techniques qu'on met, on a en permaculture aussi, bien sûr, en agroécologie... dans ce qu'on appelle l'agriculture régénérative aussi, où on met des litières sur le sol pour bloquer l'humidité. Déjà, la matière organique contient beaucoup d'eau. L'évaporation se fait constamment, donc il faut la bloquer au niveau des racines. Donc c'est déjà quelque chose d'important à faire.
Je suis complètement d'accord. Les micro-organismes aident beaucoup à retenir l'eau dans l'humus. Et il y a des techniques agroécologiques de couverture des sols, que ce soit couverture par paillage, mais aussi par seule couverture de vivante. Donc ça veut dire qu'on va créer un enherbement de trèfle ou de légumineuse qui va non seulement nourrir par les racines en azote les cultures en place, mais aussi empêcher, garder une fraîcheur au sol et empêcher l'évaporation. Donc l'important, c'est qu'avec les canicules qu'on a, c'est de garder cette fraîcheur au sol et de ne pas avoir de sol à nu.
Oui, donc sur la problématique de l'eau, vous êtes plus sur... la protection, donc, pour ne pas perdre l'eau,
oui.
Que de dire... parce que là, on a vu les problèmes d'arrosage. Comment vous avez fait vous n'arrosez pas
Si, on arrose, déjà, on ne gaspille rien du tout. Donc, le goutte-à-goutte est la meilleure chose, le meilleur système qu'on puisse trouver actuellement. Là, c'est de mettre un petit fil d'eau par une canalisation en plastique au pied des plantes, au niveau de la racine. Donc, ne pas asperser par-dessus. Ce qui fait qu'on va asperser, quand on a des arroseurs qui viennent par-dessus, on arrose une grande surface, il y a une évaporation énorme, on va arroser non plus les espaces où la plante ne pousse pas. Donc, le goutte-à-goutte restreint la quantité d'eau consommée énormément.
Après, il y a des techniques aussi de culture étagée pour faire de l'ombrage. Donc, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. On va créer des étagements de culture avec des strates hautes, des strates moyennes et des strates basses. Et ça va permettre de faire de l'ombrage, d'éviter justement un soleil direct sur les cultures, donc de l'évaporation. Et il y a des techniques aussi en phytothérapie agricole. Je vais donner l'exemple de l'extrait fermenté de bardane. Cet extrait fermenté, en pulvérisant les plantes ou en arrosant au sol, permet de limiter, en fait, de mieux gérer l'ouverture des stomates des feuilles et de mieux gérer l'évapotranspiration. Et en plus du goutte-à-goutte, il y a aussi des techniques de micro, de tuyaux microporeux, oui, qui permettent vraiment d'humidifier le sol et du coup de ne pas arroser comme les asperceurs le font sur le feuillage et d'avoir des départitions d'eau. Mais c'est compliqué de ne pas arroser parce que sinon on ne produit pas. Et on a des sols ici qui sont argilo-calcaires et qui sont très drainants. Bon, on a beaucoup de restanques. Et là, on n'a pas le choix d'inonder ces restanques parce que sinon, on n'a pas de production. Les anciens, ils cultivaient des pois chiches. Oui. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on cultive peut-être des aliments qui ne sont pas adaptés à nos sols, mais qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et en bord de mer, c'est des sols plutôt sableux. Peut-être tu pourras en parler.
Oui. En fait, une plante, c'est 95% d'eau à peu près. Donc, moi, je dis toujours, c'est une sculpture d'eau. Donc, il nous faut de l'eau, absolument. Et il y a d'autres techniques encore avec des petits capillaires qui viennent donner de l'eau au pied de chaque plante. Mais enfin, c'est des coûts d'installation phénoménaux. On peut trouver des systèmes pour économiser l'eau, hein, bien sûr. Et ces fameuses cultures hautes et cultures basses, nous, on les pratique, m'amuse toujours à le dire. On a des cultures horizontales. Donc, pour nous, ce sont les salades, les fenouilles qui sont au ras du sol. On a les cultures hautes, ce sont les tomates, ce sont les pois, les haricots. Mais ces cultures hautes aussi ont besoin d'une canopée supplémentaire parce qu'elles ont aussi trop chaud. Donc, on arrive déjà à faire des systèmes par étage, mais il nous faudrait encore cette fameuse canopée arborescente qu'on n'a pas.
Oui, et là, on va sur l'agroécologie, du coup.
Oui, oui, oui.
L'agroforesterie, le jardin-forêt, la forêt nourricière.
Alors, on va se retrouver après un petit peu de musique.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons avec mes invités Marie Stéphan et Christian Carnavalet pour parler de culture, on va dire globalement de culture. Donc on avait vu un petit peu l'agriculture plus saine, disons, mais actuellement on est sur une agriculture très industrielle. Et donc comment on peut passer de cette agriculture industrielle à une agriculture plus protectrice de l'environnement aussi, parce que c'est ça le gros problème. Comment on fait ? On a des grosses exploitations immenses. On cible des productions sur lesquelles il faudrait d'urgence agir, d'autres où on a plus de temps.
Alors, historiquement, on est passé au début du siècle à des petites fermes familiales. Il y a eu, après la guerre, un besoin de nourrir la population. Et il y a eu un développement de politiques européennes avec la PAC qui ont favorisé les grandes exploitations. Il y a la mécanisation qui est venue aussi. Et aujourd'hui, on voit le bout de ce système. De ce système où il y a très peu d'agriculteurs, où on fait quand même beaucoup d'importations et d'exportations de produits agricoles. Donc, on a moins de cultures vivrières. Et je pense qu'on a besoin de revenir à un modèle plus simple, plus petit, plus familial, un modèle agro-silvo-pastoral qui favorise aussi plus de main-d'œuvre agricole, moins d'intrants. Donc, pour moi, c'est tout un système à repenser pour être moins dépendant de l'étranger, des intrants chimiques et des intrants de pétrole, et se dire comment on rebascule dans un système plus durable, plus vivrier, avec dans un système agro-silvopastoral, on a les animaux qui fournissent le fumier, qui fournissent l'engrais, on se sert des déchets de culture pour nourrir aussi les animaux et produire de la viande, des légumes, des laitages. C'est vraiment pour moi, une décision politique de se dire on reconstruit une planification en fait agricole pour être plus indépendant, pour moins polluer, pour avoir des systèmes qui rendent vraiment des services écosystémiques, quoi. On redonne plus de place à la biodiversité. C'est vraiment pour moi une question très large et très politique. Quel argent on met là-dedans, comment on les soutient et comment on sort d'un système polluant, destructeur et des sols et de la biodiversité.
Ça nous renvoie au poids de la FNSEA.
Les grandes exploitations ont toujours existé. Du temps des Romains, il y avait des exploitations de 1000 hectares aussi. Mm-hmm. Il nous faut des cultures industrielles en grosse quantité pour alimenter les villes. Tout le monde ne pourra pas être paysan. Les populations maintenant sont urbaines. Donc comment est-ce qu'on va les nourrir ? C'est pas avec des petits agriculteurs, on va pas arriver à nourrir toutes ces populations-là. Donc il nous faut malheureusement des grosses exploitations. Mais elles se modernisent, en ce sens que cette modernité vient sur cette agroécologie. Les grandes exploitations sont passées maintenant à des semi-directs, avec de moins en moins d'intrants chimiques. Plus on a des grosses exploitations, plus on fait d'économies à l'hectare, en ne labourant plus, en n'achetant plus de produits chimiques, en n'achetant plus d'engrais. Donc on passe à des systèmes que la France a aidé à développer, avec par exemple le CIRAD de Montpellier, qui est allé au Brésil et qui a comme énormément travaillé sur toute cette problématique. Comment est-ce que je peux enrichir mon sol en matière organique en développant mes micro-organismes, en le structurant bien, sans fumier finalement, avec simplement les déchets de culture que je laisse sur place. Donc on arrive maintenant à faire quelque chose de très intéressant au niveau agricole sur des exploitations de 200, 300, 500 ou 1000 ou 30 000 hectares. On a en France une association de paysans qui, maintenant grâce à Internet, se connaît, se côtoie et développe énormément ces nouvelles techniques-là. Donc moi, je suis extrêmement optimiste sur l'agriculture qu'on dit industrielle. L'argent va faire en sorte que les gains, en gros 250 $ ou 250 € d'économie à l'hectare, va permettre à tous ces agriculteurs de modifier leurs pratiques culturelles. Donc on est vraiment sur cette tendance de fond parmi toute la nouvelle génération d'agriculteurs qui prennent le relais de papa ou de ceux qui s'installent, d'aller vers cette agriculture agroécologique sur de très grandes surfaces.
Alors, oui. Je sais pas, moi je voulais juste quand même pondérer un peu vos propos parce que on arrive aussi au niveau de l'extraction pétrolière. J'ai écouté un interview de Jean Covici il y a pas longtemps où il disait clairement qu'en 2030, division par deux des extractions pétrolières, donc sur des exploitations de 30 000 hectares. Enfin, moi ça me paraît ahurissant de pouvoir faire de l'agroécologie sur des exploitations ça, oui. aussi grandes. Je veux dire, comment on va faire sans pétrole? Donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu de comment on concilie la réduction énorme énergétique qui nous arrive un peu droit dans le nez et ces grandes exploitations qui sont complètement dépendantes de cette énergie-là. Voilà. Donc, moi, ça me pose vraiment
Mais
question.
Mais de l'autre côté, comment on va faire pour trouver la main-d'œuvre? Les exploitants, les jeunes agriculteurs, pour pouvoir...
Il faut de la main-d'œuvre, il faut former.
Comment est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on manque énormément de candidats à l'installation. Hein. Ce n'est pas avec le peu de personnes qui se présentent dans les chambres d'agriculture pour essayer de s'installer qu'on va y arriver. Donc forcément, oui, sur une exploitation de 1000 hectares, il vaudrait mieux avoir 100 personnes qui travaillent et on découpe cette exploitation. Mais où est-ce qu'on trouve les gens?
Aujourd'hui, c'est 2% d'agriculteurs en France.
Comment on va faire?
Mais ça pose le problème dans notre département, ou même dans notre région, je ne sais pas, du foncier. Parce que moi, je connais des tas de jeunes qui voudraient s'installer, mais ça pose la question du foncier.
Le foncier, oui, bien sûr, mais tout dépend sur quelle surface ils veulent s'installer. Donc, si on veut s'installer sur 1 hectare ou 2 ou 3 hectares, forcément, dans le département, ce n'est pas possible. Donc, parce qu'il n'y en a plus de disponibles, parce que les gens les possèdent, mais ne veulent pas les louer, parce qu'il faut déforester, parce que... c'est compliqué à mettre en place. Les contrats de location sont tellement bas par rapport à ce que va gagner un paysan aussi, de toute façon. Donc, on ne peut pas louer des terrains dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'est très compliqué. Ni les acheter, d'ailleurs. C'est encore plus dur. C'est pour ça que des techniques qui permettent de travailler intensément, manuellement, en agroécologie pure, sur des petites surfaces avec de forts rendements, parce qu'on fait ces cultures étagées, hautes et basses, sur la même surface qui fait 1000 ou 2000 mètres carrés, là, oui, il y a possibilité de faire ça. Puisque là, les peu de terrains qui sont disponibles vont et sont proposés à ces agriculteurs.
Il y a un vrai problème du foncier dans les Alpes-Maritimes, non seulement parce qu'on ne se pose pas la question de comment on veut utiliser ce foncier-là. Aujourd'hui, ce qui rapporte le plus, c'est le BTP, c'est de construire. Donc, on voit la plaine du Var qui a été complètement bétonnée. On exproprie les agriculteurs. Encore à la Gaude, on exproprie un agriculteur sur une exploitation familiale qu'ils ont depuis des générations et des générations pour construire des HLM. Donc, pour répondre à une loi du gouvernement. Comment on fait quand on a des contraintes aussi fortes sur le foncier pour les logements sociaux? Comment on fait quand on veut développer une activité économique dans une plaine qui est très fertile agricole et qu'on laisse aux agriculteurs finalement des parcelles qui sont moins d'un hectare? C'est très compliqué pour un agriculteur de trouver un hectare. Alors qu'on pourrait décider collectivement autrement de ce qu'on fait de ces terres agricoles. Et encore une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les Alpes-Maritimes, on a 48 heures d'autonomie alimentaire. Ça veut dire que cette question de souveraineté alimentaire, les politiques, ils en ont soit pas conscience, soit vraiment rien à faire. Donc si aujourd'hui, il y a un problème logistique, les camions n'arrivent plus dans notre département, ça va être les émeutes de la faim. Voilà.
Tout à fait, mais moi, je reviens sur... La fameuse loi SRU, elle demande de construire, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, c'est trop facile. Là, les politiques, ils disent « Ah, mais je suis obligé ». Donc, voilà, la question, c'est effectivement sur quelle terre et à quel endroit on fait des immeubles, des logements sociaux, parce que d'ailleurs, il faut savoir que dans les Alpes-Maritimes, on a augmenté le nombre de résidences secondaires hein, depuis la loi SRU, au prétexte de construire du logement social. On augmente les résidences secondaires, hein, on est passé à 40%. Donc voilà, donc effectivement, il y a ce conflit d'usage, disons, et on se sert de la loi SRU comme argument.
Et un autre conflit d'usage que je vois aussi, c'est l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, on utilise des terres agricoles, alors qu'on en a très peu chez nous, pour mettre des panneaux solaires, ou on déforeste, encore pire. Voilà, c'est vraiment une question politique. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos sols, de nos terres, et quel avenir on veut pour se nourrir, quoi, pour être indépendant à ce niveau-là. C'est quand même la base de la nourriture.
Alors que l'ADEME a fait plusieurs études où elle dit si on couvre les toits, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des fermes photovoltaïques. Oui.
Exactement, il y a des friches industrielles aussi.
Ils
ont fait une liste de toutes les friches industrielles qu'on pourrait utiliser pour des
fermes photovoltaïques. Et là-dessus, moi, j'ai vu qu'il y en a qui font des panneaux plus hauts de manière à cultiver dessous.
Oui, mais ça, c'est un gros problème aussi. On nous l'a proposé, et je vois beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. On met des panneaux à 5-6 mètres de hauteur pour pouvoir faire de l'agriculture en dessous. Mais on va louer, donner 7 à 8 000 euros aux paysans pour abriter ces panneaux. Et on a peur qu'ils ne fassent plus dessous une culture comme le blé ou le maïs à 1 000 euros de chiffre d'affaires à l'hectare. Donc si on leur donne des panneaux qui vont lui rapporter 8 fois plus, la grosse tendance, c'est qu'ils pourraient abandonner l'agriculture.
Mais ça, c'est valable. Sur du maraîchage, par exemple, ce ne serait pas valable.
Sur du maraîchage, ça serait... Oui, mais enfin, alors, on nous l'a proposé sur Cannes, mais il faut minimum installer 3 hectares. Et est-ce qu'au niveau esthétique, on a envie d'avoir des piliers, des panneaux photovoltaïques en ombrière? J'aimerais bien avoir des ombrières, mais pas à ce prix-là, pas à ce niveau d'esthétique.
On peut couvrir
aucun
déjà les parkings.
Aucun paysan ne va accepter ça.
Oui, on peut couvrir les parkings, on peut couvrir les toits.
Il y a suffisamment d'espace à couvrir.
Alors, par rapport à tous ces nouveaux modes, nouveaux façons de parler, puisqu'on revient plutôt à une agriculture qui avait été pratiquée pendant des siècles et des siècles, la politique européenne, parce que la politique européenne favorise ces modes de culture. Alors j'ai vu que depuis 2006, les parcelles agroforestières ont le statut agricole, ce qui est donc depuis 2006, c'est récent, et du coup éligible aux aides. Mais on dit souvent que le bio bénéficie de moins d'aides, moins de subventions. Donc ces modes de culture bénéficient-elles de l'aide de la PAC, de l'Europe? Et au niveau français, est-ce qu'il y a des aides à développer plutôt ce type d'agriculture qu'une agriculture industrielle?
Déjà, l'agriculture biologique couvre en France 16%, heureusement, des surfaces agricoles. Mais dans le monde, c'est 1,68% ou 2% à peine. Et elle a du mal à se développer. Avec la crise aujourd'hui économique, qui fait que, ma foi, les produits bio étant vendu à ce prix très élevé dans les grandes surfaces où on a brouillé l'image de ce que c'était vraiment que le produit bio, il n'y aura pas de développement de terres agricoles nouvelles en agriculture biologique. Insister pour l'agroforesterie, donc ce ne sont que les convaincus qui vont le faire. On ne va pas arriver à convaincre les paysans de se lancer là-dedans, même avec des aides. Certains, mais ça va se faire à tellement petite vitesse, à tellement petite échelle, que ce n'est pas avec des aides de la PAC qui sont souvent difficiles. Les plantations de haies aussi, on va vous donner un peu d'argent, mais les haies, on va les planter, elles ont 50 cm de haut, ou 1,50 m à peine, donc avant qu'elles fassent réellement leur effet, ça va demander des années. Et puis le nombre d'agriculteurs qui sont incités, enfin, qui ont l'esprit à aller vers ce genre de pratique, est quand même assez réduit, me semble-t-il.
Donc en fait, c'est plus sur l'éducation, la formation où il y aurait un souci, quoi. Il faut les former à ces modes de culture pour qu'ils soient demandeurs.
C'est la formation qui compte. L'enseignement agricole français classique dans les lycées agricoles ne forme pas à ça. Ça commence à venir un peu, puisqu'on est obligé d'en parler. Merci les écolos, quand même, depuis 30 ans, d'avoir bouleversé le monde politique et d'avoir fait qu'on avance quand même. Mais l'enseignement a toujours du retard. Il y a une inertie qui se met en place. Les jeunes générations le demandent, mais avant que cette jeune génération arrive à s'installer, c'est compliqué. En plus, dans le système de l'enseignement, on sait que 1% seulement des jeunes diplômés vont pouvoir s'installer. Donc, ça n'augure pas non plus d'un développement exponentiel des nouvelles techniques qu'on pourrait leur apprendre.
Et donc, il faut être en reconversion, sinon il faut espérer la reconversion. Mais là, on a deux philosophies antinomiques, en fait, non?
Non, mais il y a beaucoup de maraîchers qui se reconvertissent ou d'agriculteurs parce qu'ils ont eu des cancers à répétition. Donc, ils ont envie de se protéger, protéger aussi leur famille. Il y a des agriculteurs qui ont une conscience environnementale ils prennent conscience et ils vont aller dedans. Mais en fait, sur les grosses exploitations, les coûts aussi de reconversion sont tels et les changements d'habitude sont tellement énormes que je crois que c'est très décourageant quand on voit déjà ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Je crois que la plupart des... Je ne sais plus le nom, mais c'est plus de la moitié des agriculteurs, ils sont payés 600 euros par mois. Ils travaillent une quantité d'heures hallucinante, ils ont peu de temps pour se former et on leur demande de tout revoir. Vu l'état d'aujourd'hui du métier et le nombre de suicides qu'il y a, je crois qu'il y a un vrai soutien financier de formation. Il faut vraiment soulager les agriculteurs pour qu'ils arrivent à passer le cap, quoi. Mais il faut des aides financières, je pense, énormes. Il faut payer leur reconversion, quoi.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en RSA. D'ailleurs, il y a eu un débat par rapport au travail obligatoire avec le RSA, par rapport aux agriculteurs, où c'est Aurélie Trouvé qui a demandé à l'Assemblée nationale à quelle heure ? Avant 6 heures, parce qu'à 6 heures, j'ai la traite. Et après 19 heures, parce qu'à 19 heures, je rentre le troupeau. Donc les 15 heures du RSA, je les fais quand ? Ça montre bien le décalage entre le vécu par les agriculteurs et leur travail et puis la vision des politiques, quoi. Alors, on ne peut pas parler d'agriculture, tout ça, sans parler du glyphosate, parce que c'est l'actualité. La Commission avait pour projet de le reproduire pour 10 ans. Le vote du 13 octobre, on est tout récent, n'a pas eu la majorité. La France s'est abstenue. On pensait tous qu'elle allait voter pour la reconversion pendant 10 ans. Donc, il y a deux questions. Il y a le glyphosate en lui-même, qui maintenant quand même est reconnu cancérigène, et puis la position de la France par rapport à tout ça.
Se dire qu'on va arrêter le glyphosate, ce serait merveilleux, oui, bien sûr. Mais le glyphosate aide quand même les agriculteurs à lutter contre le problème majeur en agriculture, c'est le retour de la nature. C'est-à-dire, les mauvaises herbes sont et la flore naturelle des parcelles. Nous, agriculteurs, on vient et on va imposer à cette parcelle une autre flore. Donc du blé, du maïs, ou du sorgho ou autre, ou des légumes. Hein. Donc il y a forcément un retour de la nature. On dit toujours que le naturel revient au galop. Donc les mauvaises herbes sont là, elles poussent et elles reviennent très très vite se mêler aux cultures que nous avons installées. Comment est-ce qu'on arrive à nettoyer le terrain d'une manière parfaite pour que nos cultures à nous puissent se développer ? Sur des petites surfaces, on arrive à le maîtriser. Sur des grandes surfaces, il faut toujours passer avec des machines entre les rangs. Donc, c'est aussi une dépense de temps, de gasoil. Et à partir d'un certain stade, les plantes sont trop hautes, donc le tracteur ne peut plus passer. C'est surtout aussi le problème à la germination de nos cultures que se pose le problème. Donc, en même temps qu'on va semer le blé, va germer toutes les autres mauvaises herbes, les herbes naturelles de la parcelle. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trier tout ça ? Donc, le miracle a eu lieu il y a une cinquantaine d'années ou 60 ans avec le glyphosate, qui a été un outil parfait pour les agriculteurs. Donc maintenant qu'ils essayent de changer de culture, ils ont quand même, c'est inscrit dans le travail, dans les mentalités. Papa a fait ça, le grand-père peut-être aussi. Le fils a vu ça toute sa vie. Donc il arrive à 25 ans, 30 ans, il prend l'agriculture en main, l'exploitation en main. Il a vraiment beaucoup de mal à changer. On réduit maintenant le glyphosate aussi dans les doses qu'on utilise. Donc, c'est surtout ça, on ne va plus en utiliser 30 litres à l'hectare par an, mais peut-être un demi-litre simplement. Il y a beaucoup de techniques culturelles où on utilise 0,2 litres à l'hectare, juste en appoint, grâce aux nouvelles techniques qu'on met en place. Donc, il faut encore un peu de temps pour que l'agriculteur prenne en main cette nouvelle technique. Donc, le glyphosate va se réduire un petit peu, il faut leur laisser du temps. 10 ans, c'est peut-être un peu long. On avait dit 2-3 ans, mais c'est pareil, 10 ans, ça... Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est peut-être le laps de temps nécessaire quand même pour que la nouvelle génération qui arrive apprenne à bien maîtriser les nouvelles techniques.
Et Macron avait promis de l'interdire.
En fait, ce qui est énervant, c'est qu'on recule l'échéance, et en fait, il n'y a pas de décision politique ou de planification en fait, de sortie du glyphosate qui est organisée. Donc voilà, on aurait pu commencer un plan de formation des agriculteurs et de se dire... On fait ça progressivement, on forme tout le monde et on se donne un vrai plan. Là, aujourd'hui, c'est on repousse, et puis on n'a pas de plan, on n'accompagne pas les agriculteurs. Donc oui, il y a des techniques pour se passer du glyphosate. Et puis aussi, il faut remettre des gens à l'agriculture, il faut qu'il y ait plus de gens Pourquoi on ne fait pas aussi, pour réduire les coûts des agriculteurs quand ils embauchent quelqu'un, on ne fait pas des charges salariales et patronales moins élevées dans l'agriculture pour essayer de pas alourdir la facture, en fait, quand on embauche. Donc, il y a plein de solutions qui peuvent exister, mais il faut mettre les gens autour de la table et se donner les moyens d'y arriver. Parce qu'aujourd'hui, le glyphosate, c'est quand même une molécule qui est ramanante, qui reste dans les sols, qui se retrouve dans les eaux, qui pollue, qui tue. En fait, on peut pas continuer comme ça. On peut pas accepter que des enfants y naissent déformés et de dire c'est pas grave, en fait. Parce que les molécules, elles s'accumulent aussi dans les sols. La toxicité, c'est l'accumulation des molécules nocives dans les sols. Et ça peut être le cuivre aussi. Donc, des molécules qui sont plutôt naturelles.
Accord à côté sur...
Je voulais revenir, on l'a un peu abordé, sur les fermes familiales. Parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est, l'avenir quoi, de l'agriculture ? Avec qu'on appelle aussi une agriculture paysanne, peut-être qu'il faut faire la différence.
L'agriculture familiale ou paysanne, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais il semble quand même que ce soit une des voies d'avenir, puisque tous les jeunes ou moins jeunes, puisque moi j'ai même des élèves, ils ont 55 ans, 57 ans, donc toutes les personnes qui veulent se reconvertir en agriculture n'auront jamais les moyens de se payer une grosse exploitation. Donc ils auront forcément cultiver des petites parcelles au plus près des consommateurs. Donc c'est un peu ça l'esprit de la ferme familiale. Même si elle fait un hectare, on va essayer de la développer donc, dans les endroits qui nous restent. En pleine campagne, la clientèle est difficilement atteignable. Donc les villes proposent quand même, peut-être pas dans notre département, mais ailleurs à Bordeaux, on me dit, moi j'ai 1000 hectares, envoyez-moi du monde. Donc cette agriculture faite de petites personnes, enfin de personnes normales, je dirais, avec des petits moyens qui n'ont pas 500 000 euros à mettre dans l'agriculture, donc vont pouvoir acheter des petites exploitations ou les louer ou une mise à disposition. Donc cette agriculture-là va beaucoup se développer, à mon avis.
C'est ce que vous voyez aussi dans votre association ?
Oui, alors pas au niveau de l'association, mais en fait, je ne vois pas trop d'autres solutions, même au niveau... Les grosses exploitations, elles génèrent beaucoup de déchets. Elles ont besoin, voilà, comme j'ai dit, d'énergie, d'intrants. Et vu que l'économie commence à se contracter et qu'on a de plus en plus de difficultés à payer les factures d'électricité, en tout cas, il y a un besoin de relocalisation, de générer moins de déchets agricoles, d'être dépendant de moins d'intrants. Et pour moi, c'est une solution de sobriété, en fait, aussi, ces petits systèmes. C'est des systèmes qui sont plus locaux, qui recréent du lien social, les produits voyagent moins, donc ils sont de meilleure qualité nutritive. Je pense qu'on en a vraiment besoin, en fait. Et ça recrée du lien, les circuits courts recréent aussi du lien entre ceux qui ne sont pas des métiers de la terre avec les paysans.
Alors, on sait que dans les Alpes-Maritimes, on a 2-3 jours, il y a des avis de 3 jours, d'autonomie alimentaire. Les collectivités se sont lancées dans l'élaboration d'un projet alimentaire territorial et donc censé nourrir la population de la collectivité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. C'est un effet d'annonce ou il y a quelque chose derrière réellement ?
Déjà, ils s'y sont mis au dernier moment. Ils ont attendu, ça fait 10 ans que certaines villes ont déjà fait leur travail. Oui. Tandis qu'ici, dans le département, ils s'y sont pris en 2021-22, là, en plein Covid. Même, on a commencé à se préoccuper d'embaucher certaines personnes pour s'occuper de ça. Et puis maintenant, donc en 2022, il y a eu énormément de réunions auxquelles on m'a demandé de participer dans toutes les collectivités là. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort finalement ? C'est que on n'a aucun agriculteur. Déjà, ils ne savaient même pas le nombre d'agriculteurs qu'il y avait par commune. On ne savait pas trop le nombre de terres agricoles qui étaient disponibles. Et puis le but, c'était quand même d'arriver à trouver des agriculteurs pour alimenter les cantines municipales. Donc ça, c'est fiasco complet dans tout le département là. Quasiment personne n'a répondu à cette demande, puisque les agriculteurs aujourd'hui, ils sont tellement peu nombreux, surtout quand ils sont de petites exploitations, ont une clientèle en vente directe, donc ils n'ont pas de surplus. Et les quantités que demandent les cantines sont énormes. Quand on vous passe une commande où il faut 300 kilos de carottes, 250 salades ou autre, le petit paysan ne peut pas faire ça.
Ça n'avancera pas.
Il va y avoir quelques petites créations de quelque chose.
Il y a Châteauneuf qui est très, Bon, Montsartou, on ne les cherche pas parce
qu'ils ont réussi. Châteauneuf, ils ont commencé, oui.
Mais Châteauneuf se pointe là-dessus quand même.
Oui, à Châteauneuf, ils ont essayé de faire quelque chose.
Il y a une volonté politique,
disons. Il y a une volonté politique et ce sont maintenant les politiques qui font le travail. Mm. Après le conseil municipal, donc, parce qu'ils ne trouvent personne. Mm. Donc ça, c'est un problème.
Alors, autre chose dont on parle aussi, c'est d'une sécurité sociale alimentaire. Donc on s'est rendu compte avec le Covid, donc de la même manière qu'on s'est rendu compte qu'on manquait de production locale, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, qu'on a l'impression qu'ils découvrent, nous il y a longtemps qu'on le sait, mais enfin... Et on parle de sécurité sociale alimentaire. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça permet de,
ouais,
d'avoir...
Moi c'est un concept que j'adore, que j'ai découvert à travers des lectures, notamment du livre des greniers d'abondance. C'est un concept qui permet en fait de donner une sécurité alimentaire comme une sécurité sociale à un groupe de personnes. Donc là, il y a des tests qui sont faits dans différentes régions en France. Je pense à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, aussi dans le Vaucluse. Et donc, en fait, c'est de donner une somme d'argent. Donc je crois que c'est 150 euros par mois pour se nourrir, soit alors, dans des magasins bio ou locaux. Et ça permet aux gens d'avoir accès à une nourriture saine, de qualité et bio, si possible. Et en fait, c'est ce groupe de personnes, ils contribuent à hauteur de leur revenu. Ça va de 1 à 150 euros. Et donc, cela permet vraiment d'avoir accès à une nourriture de qualité, mais aussi de développer l'agriculture locale, en fait, les réseaux locaux. Voilà, on crée une clientèle et puis il n'y a que des co-bénéfices en termes de santé, de lien social et d'égalité. Oui, je crois qu'en termes de dépenses, en termes de santé, ce qu'on appelle la malbouffe, ça génère des coûts énormes pour la société. Donc l'un dans l'autre, et une agriculture industrielle, le fait qu'elle stocke plus de carbone dans le sol, qu'elle érode les sols et les détruit, il y a des coûts énormes qui sont générés par ces externalités négatives. Et ce système-là, il répond quand même à plusieurs problématiques.
Alors, on a un peu parlé de ce que l'on importe pour produire, mais il y a aussi qu'on a une agriculture qui est un peu basée sur l'exportation aussi. On dit que le poulet français tue le poulet africain. Donc, il y a aussi ça sur lequel il faudrait revenir et dire produire plus localement, quoi.
Après, on est en train de signer actuellement des accords de libre-échange avec les pays d'Amérique latine où nos éleveurs ne savent plus comment ils vont faire pour être compétitifs sur le marché.
Et la Nouvelle-Zélande avec l'agneau ?
Oui.
On s'engage à importer plus de 200 000 tonnes d'agneau. Là, effectivement, on importe pour nourrir les animaux, on importe les intrants. Hein. On a découvert avec la guerre en Ukraine qu'on était soumis pour les intrants.
Et puis surtout sur des normes qui ne sont pas les mêmes, en fait. Nos agriculteurs sont soumis à des normes qui sont quand même exigeantes. On a une agriculture de qualité, malgré qu'elle soit aussi industrielle, mais on importe des produits qui ne sont pas du tout soumis à la même législation, à des prix inférieurs. Donc ça pose un vrai problème de compétitivité pour nos agriculteurs et comment on préserve notre agriculture face à cette concurrence, quoi.
Dans le temps qui nous reste, je voulais vous donner à chacun, vous êtes présenté, mais reparler de votre expérience, là, de ce que vous faites concrètement. Christian.
Christian, lui, son expérience concrète maintenant depuis 3 ans, c'est de former des gens qui veulent se reconvertir à l'agriculture. Donc on les prend, on leur donne un terrain de 1000 mètres carrés pendant une année. On part donc de rien du tout. On apprend à labourer, à semer toutes 60 espèces de légumes différentes, à faire des semis directs de carottes, de betteraves, de radis et autres directement dans le sol. On apprend à les cultiver, on apprend à les amener jusqu'à la récolte. Donc on en fait des professionnels, vraiment des professionnels. On fait quelque chose qui leur permet donc de retrouver goût à la vie. Ils avaient souvent de très beaux métiers avec de très belles payes. Là, ils se retrouvent avec, pour certains, le RSA ou juste leur indemnité de chômeur pour repartir après ça dans un métier où ils auront 2 ou 3 fois moins que ce qu'ils avaient avant. Mais comme ils disent, je m'en fous, j'ai ma liberté, je fais ce qui me plaît, je suis dans la nature.
Marie, pareil, pour développer un peu plus.
Alors, moi, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle les Ateliers Agroécologiques. On fait des formations, donc on a une formation la plus longue qui s'appelle le Créer son jardin nourricier. Donc, on apprend aux particuliers, mais aussi à des professionnels, jardiniers, paysagistes et quelquefois des agriculteurs, à cultiver en respectant la vie du sol. Et puis, on est aussi spécialisé sur la phytothérapie agricole. On a été formé par Éric Petiot. Et on leur apprend à justement ne plus utiliser des produits phytosanitaires ou des produits chimiques. Donc on est sur vraiment que du naturel. On a des formations aussi en gestion de l'eau au jardin, sur des thématiques très, très actuelles. Comment préserver le sol, comment on utilise moins de ressources possibles et comment on travaille avec la nature.
Alors, des infos complémentaires. Moi, je dirais, toutes les éditions Terre et Humanisme, on trouve de tout. Là, il y en a un spécifique sur la litière forestière fermentée. Marie, vous en avez d'autres là, à citer là.
Moi, j'aime bien les alternatives aux pesticides pour une agriculture biologique d'Éric Petiot.
Voilà, il faudrait bien préciser que Terre et Humanisme, c'est Pierre Rabhi, moi je dis toujours.
Exactement.
Pour faire court, Pierre Rabhi. Après, il y a un livre que j'ai adoré. C'est Olivier Hamon, alors vous pouvez vous l'offrir, il coûte 3,90 €. C'est Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, c'est aux éditions Tract Gallimard, il coûte 3,90 €, donc on peut se l'offrir sans problème. Et il fait un peu une synthèse de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mêmes priorités en agriculture. L'objectif, ce n'est pas de produire, d'aller vite, mais c'est d'avoir, de préserver la biodiversité, le sol et tout. Alors, encore un livre, Christian, vous avez un livre à présenter?
Ben moi, j'ai écrit un livre sur le maraîchage sur petite surface, la French Method, aux éditions Terrain, qui permet de voir un peu comment on peut se reconvertir professionnellement sur une petite surface.
Un site internet, peut-être?
Le site internet, moreau-daverne.fr.
Et Marie, un contact, un site, une...
Atelier agroécologique.org.
D'accord. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de participer à mon émission.
Ben merci, oui.
Merci beaucoup.
Voilà. Et vous retrouverez de nouveau Marie et Christian le 9 novembre. Merci. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un autre Alter Regard.